Bonjour messieurs, dames, excusez-nous pour le petit contretemps. Je vous demande d'accueillir pour cette table ronde que je considère assez exceptionnelle dans l'histoire des Utopiales. Je vous demande d'accueillir François Bourgeon.
Merci.
Donc François Bourgeon qui nous fait le plaisir d'être invité aux Utopiales pour nous présenter son plus récent album, j'allais dire dernier, mais non, plus récent album sur le cycle de Sienne, donc La Source et la Sonde, je dirais numéro 7
6, ça dépend si on considère que la clé des confins est à part ou pas. Quoi.
Et dans le cycle ou pas. Alors, on va voir l'image normalement de la couverture. Vous avez pu voir la très belle expo qui est consacrée donc au cycle de La Source et la Sonde. On peut dire que François Bourgeon est un auteur rare, alors pas forcément rare, disons, du point de vue de la plume et du crayon, rare par sa présence, rare par effectivement les albums, absolument prolixe par contre dans la densité des albums, parce qu'effectivement quand même se plonger dans chaque album de La Source et la Sonde, c'est découvrir presque un univers complet à chaque... pas épisode, hein, parce que comme tu le dis toi-même, c'est une histoire complète, chaque chapitre est tellement dense qu'on a vraiment l'impression de découvrir un univers complet à chaque fois. Donc j'ai envie de commencer, on va commencer tout doucement comme si on était au coin du feu, hein, on va essayer d'aborder un petit peu différents thèmes, et un petit peu ton parcours, un petit peu ta manière de travailler, et puis aussi le rythme, commencer peut-être par le rythme de ce cycle de Sien quand même, qui en je dirais presque 40 ans de dessin aujourd'hui, 40 ans quasiment de parution, a pris 20 ans pour arriver au 7e tome. Pourrais-tu nous expliquer un petit peu tout ça?
Un peu plus de 20 ans, puisque j'ai commencé personnellement à travailler un peu sur cette idée en 1989, alors que je terminais le dernier chant des Malaterres. Et Claude Lacroix m'a proposé un coup de main en 90, et on a commencé à travailler ensemble sur la conception de cette aventure de 90 à maintenant, avec une interruption de 6 ans pour faire La Petite Fille Bois Caïman, mais sinon tout le reste du temps a été sur Sien.
Avec du coup combien de temps par exemple en moyenne par album, en fait, par exemple, est-ce que tu as une régularité sur cette histoire là ou est-ce que c'est...
Ce que je sais, c'est que quand on multiplie le nombre de planches que j'ai faites et qu'on les divise par le nombre d'années, Je fais en moyenne un album de 46 planches par an, quoi. Sauf que j'ai des albums qui en font beaucoup plus, parfois. J'ai mon rythme. Je sais pas travailler autrement, de toute façon. Et puis, il y a des albums qui sont quand même assez... qu'on plus de 100 pages jusqu'à...
Oui, ramener à la case, c'est un rythme très rapide, finalement.
Un rythme normal, sachant que j'écris le scénario, sachant que je fais le dessin et la couleur.
Alors, tu es d'origine parisienne, exilé aujourd'hui en Bretagne,
Pas exilé, j'ai choisi de vivre en Bretagne depuis 1982, parce que je pouvais le faire, parce que je travaillais plus ou beaucoup moins dans la presse. Il faut dire que les gens de ma génération ont commencé presque tous à travailler pour la presse. On était pigistes, on faisait les bandes dessinées, au début beaucoup pour de la presse enfantine, édition de Fleurus, Pif Gadget, Bayard Press. C'est là où ont commencé des gens comme André Juillard, comme tous les gens de ma génération. Moi j'ai commencé la bande dessinée, les albums vraiment aux alentours des années 80, quoi, puisque Les Passagers du Vent, les premiers, sont parus en 80.
Alors ce métier dont tu parles effectivement a quand même beaucoup évolué. Cette évolution aussi t'a permis du coup de changer toi ton mode de vie en partant, en t'éloignant de Paris. Mais à l'époque du coup tu travaillais énormément en collaboration, enfin pas en collaboration mais en tous les cas dans un groupe avec beaucoup d'émulation, je dirais, le fait de rencontrer des dessinateurs toutes les semaines, enfin de travailler avec un rythme peut-être plus soutenu.
Le travail dans la presse avait pas mal d'avantages. Il avait l'avantage déjà de permettre à des auteurs de commencer leur carrière en ne sachant pas trop leur métier, d'apprendre petit à petit auprès d'un public indulgent et d'être relativement bien défendu, puisqu'on bénéficiait de la manière dont les journalistes s'étaient organisés eux-mêmes pour se défendre syndicalement, etc. Donc ça a permis aux gens de ma génération d'entamer plutôt positivement ce métier. On n'avait pas à faire d'album. Moi, j'ai mis 8 ans pour faire mon premier album. Mais quand on a commencé à en faire, ben, on était prêt. On avait fait toutes nos expériences, toutes nos bêtises. Et c'était un confort qu'on peut regretter que beaucoup d'auteurs n'aient plus, enfin que la plupart des auteurs n'aient plus maintenant.
Non plus, effectivement. Alors, le métier a beaucoup évolué. On en parlera peut-être dans le courant de cette heure. On ouvrira aussi le débat aux questions du public, qui j'espère seront nombreuses, puisqu'ils n'ont pas tellement l'occasion de te croiser. Ce métier a évolué. Cette évolution t'a permis de quitter Paris. Tu le dis toi-même, je crois, comme Arabelle, tu dis nous ne sommes pas des géraniums. Donc j'ai l'impression que tu n'es pas tenu à des racines, tu n'es pas tenu à un terroir, peut-être plus aux gens qui le peuplent, en fait, aux gens qui l'habitent. Et ce qui est, je trouve, frappant, moi, dans tes trois magistrales séries, c'est le voyage, en fait. À chaque fois, c'est le voyage, le déplacement, la quête. Est-ce que tu as ce sentiment d'avoir abouti ta quête ?
Oh non, on n'aboutit jamais rien, on essaie simplement d'avancer. Non, je suis pas je suis moi-même, je ne suis pas tellement voyageur. J'ai simplement choisi de me déplacer dans une région avec laquelle j'étais compatible, le climat, la manière de que les gens ont de communiquer entre eux. C'est ni mieux ni moins bien qu'ailleurs. Simplement ça me convient à moi.
Voilà. Le caractère breton,
c'est le choix de la Bretagne, de ce climat que j'aime bien, de cette région. Puis j'y avais aussi beaucoup d'amis, ce qui est quand même bien quand on se... Et puis je pouvais aussi, du fait qu'il y avait plus de presse ou très peu, je pouvais m'éloigner, puisque en fait j'ai besoin de voir un éditeur deux fois dans l'année et non pas d'aller dans une rédaction. La rédaction permettait aussi les rencontres avec les autres auteurs. Moi, quand j'ai travaillé la première fois de ma vie à Suivre, par exemple, je suis tombé avec des gens comme Jean-Claude Forest, Hugo Pratt, Tardy. Donc c'était quand même quelque chose de y avait une émulation, il y avait des échanges, il y avait des conseils, il y avait voilà, c'est quelque chose d'intéressant qui existe moins maintenant dans les maisons d'édition.
Alors, avant de parler du dessin, peut-être un petit peu plus, on va rentrer un petit peu dans les pages du cycle un peu plus tard. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta journée de travail, en fait ? Comment est-ce que ça... comment est-ce que tu t'empares d'une planche ? Comment est-ce que, à partir, disons, de la première ligne, de la première idée échangée, là, en l'occurrence, par exemple, avec Claude, comment est-ce que... La page blanche, tu commences par...
Alors, on va rester sur le cycle de Sian, hein, puisqu'on est quand même aux Utopiales. Pour le cycle de Sian, bon, généralement, il y a une idée de base. Bon, c'est moi qui l'ai. J'en discute avec Claude. On peaufine, on établit un vague chemin de fer. Je commence à écrire un synopsis. Synopsis court, synopsis long, on en rediscute avec Claude, il me dit tiens, là on pourrait peut-être introduire, etc. et tout. Et puis, ensuite j'écris le scénario. Alors ça prend le temps que ça prend. C'est-à-dire plusieurs mois généralement, que de l'écriture. Ensuite, une fois que le scénario est écrit, au moins le premier jet, on se répartit la tâche de la conception des décors, tout ce qu'il faut préciser sur les mondes qu'on va traverser, les planètes sur lesquelles les personnages vont aller, quelle est leur rotation, quelle est leur évolution autour de leur soleil, leur saison, l'axe est-il incliné, etc. On s'amuse à construire des mondes qui posent des problèmes, généralement, beaucoup plus qu'ils n'en résolvent. Et là, chacun va dans son domaine de prédilection. C'est-à-dire que, bon... Par exemple, Claude aime beaucoup plus que moi la technologie. Il s'est chargé de pratiquement de tous les engins volants, de tous les vaisseaux, etc. On a discuté de la simplicité qu'on voulait sur le système de téléportation. Et puis ensuite, on a essayé ensemble de construire les univers. Et ensuite, je réécris les dialogues, je refais le scénario en fonction de tout ça. Et puis, pendant que Claude fait de l'architecture, par exemple, moi, je vais travailler sur des animaux ou de la faune ou des costumes. Et puis, une autre fois, je travaillerai sur de l'architecture et Claude va créer des bestioles. Enfin, voilà, c'est un peu notre manière de fonctionner.
Alors, comment est-ce qu'on passe de quasiment presque une trois quarts de carrière, disons, de créateur solitaire sur tes autres histoires, à une collaboration extrêmement intime de cette manière-là, et a fortiori avec un dessinateur, en fait. À un moment donné, par exemple, il vient pas te dire « Mais non, mais ma créature est plus, est plus adéquate que la tienne. » Comment ?
Non, ça se passe pas comme ça, parce que ni lui ni moi ne l'aurions supporté. Non, c'est plutôt... Claude, de son côté, par exemple, fait des propositions. On voit celles qui sont le plus intéressantes, celles sur lesquelles on peut rebondir. Pareil, moi, je lui montrais des choses. Bon, parfois, il va me dire, oh non, mais là, on peut faire mieux, tu vois, là, ou ça ressemble trop à je sais pas quoi. Voilà un petit peu notre manière de nous amuser. Ensuite, bon, lui, il a beaucoup travaillé pour Science et Vie. Il avait fait les fariboles sidérales. Il a fait des choses comme ça. C'est quelqu'un qui est plus dans l'univers de la science-fiction que moi. Donc, il a des fois un regard un petit peu différent. Moi, je suis tout sur mes personnages, tout sur le récit, la linéarité du récit. Comment on va découper, où on va aller et comment on va y parvenir.
Et est-ce que tu penses que tu aurais pu faire un récit aussi dense en science-fiction sans l'aide de Claude, par exemple ?
J'aurais fait autre chose.
Tu aurais fait autre chose.
Qui aurait été moins bien ou mieux, j'en sais rien. Ou différent. Différent, c'est certain. Mais c'était une collaboration amusante, quand même.
Est-ce que tu as l'impression que, du coup, la source et la sonde, par rapport à toi, à tes goûts, hein, de créateur, par rapport à ce que l'on connaît de ton œuvre, est-ce que la source et la sonde pourrait rester un objet unique de par la science-fiction. En fait, pourquoi la science-fiction à un moment donné, alors que tu as manifestement un énorme plaisir à creuser les documents, à fouiller les archives, à aller dans les musées les plus improbables et les régions les plus improbables, pourquoi à un moment donné la science-fiction qui là du coup t'oblige à puiser dans une imagination propre et la tienne et celle de Claude sans forcément te... Ne me dis pas que tu as pu visiter Alderlab.
Non, mais bon, il y a les maquettes, par exemple. Vous voyez. Bon, c'est très amusant de faire des maquettes. Il y a un côté jeu. Hein. Il y a un côté vraiment, c'est des gamins avec des Legos, c'est des petites filles avec des Barbies. On est comme un gosse.
On ne demandera pas qui jouait la petite fille et qui jouait au Lego.
on est comme des gosses dans une forêt qui la peuple d'Indiens ou de Robin des Bois ou de tout ce qu'on veut ou d'animaux étranges. On s'amuse. On rigole beaucoup entre nous. Ensuite, il faut essayer d'établir de la cohérence. Alors, la cohérence, elle est parfois difficile à établir. J'ai un exemple, bon, on en avait parlé, mais que j'aime bien citer. Pour s'y retrouver dans les déplacements spatio-temporels de Sian, j'avais établi un tableau de sa chronologie. Sian, finalement, on la rencontre dans les 6 albums, on la connaît, elle a à peu près 17 ans, on la quitte, elle a 23 ans. Cela dit, les personnages autour d'elle ont des déplacements beaucoup plus considérables. Quelqu'un comme Bolgom, quelqu'un comme Nakara, elle la retrouve, elle a 60 ans, etc. Donc il a fallu qu'on essaie de maintenir une cohérence dans tout ça. Et au bout d'un moment, j'avais fait des grands tableaux et je me demandais si tout ça allait vraiment fonctionner, si le lecteur allait pouvoir suivre ou allait essayer de suivre. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de fil. Alors, on venait de terminer Les couleurs de Marcade et la maison d'édition danoise nous avait demandé de fournir en avance des photocopies des planches noires et blancs de manière à ce que le traducteur puisse commencer sa traduction en amont parce qu'il voulait que ça paraisse à peu près en même temps qu'en France. Donc, un jour, je reçois un coup de fil du traducteur danois et qui me dit « Monsieur Bourgeon, je suis très embêté parce que là, il y a un personnage, vous dites qu'il a 56 ans et à mon avis, il en a 66. » Alors, je lui dis « Vous êtes sûr ?» Il me dit « Oui, oui, parce que… » Et il commence à m'expliquer. Donc, j'ai été vérifier tous mes tableaux. Et ce personnage était tout seul en bout. Et je me suis aperçu que mon ordinateur avait buggé 10 lignes. Et du coup, j'ai pu rectifier dans la version française aussi l'âge réel du personnage. Mais ce qui prouve que les lecteurs ont parfois des lectures beaucoup plus attentionnées qu'on le pense. C'est pareil avec l'écriture. Quand on s'était amusé à établir l'alphabet éolien, on l'avait fait pour notre plaisir, histoire de ne pas faire un alphabet quand on en avait besoin, une écriture qui soit vraiment du copier-coller de la nôtre. On a petit à petit reçu des lettres de lecteurs en alphabet éolien, de lecteurs qui n'ont jamais eu l'alphabet, parce qu'on ne l'a jamais donné et on ne le donnera jamais à personne. On dit maintenant que des gens arrivent à se débrouiller tout seuls, il n'y a pas de raison d'aider les autres. Donc ceux qui veulent ont qu'à s'amuser. Donc il nous arrive de temps en temps, pour des amis de faire, ou des gens de mettre un petit mot, mais on le met toujours en éolien et on laisse les gens se débrouiller.
Et vous avez créé un méta-univers autour de la source et la sonde, d'où la nécessité de la clé des confins pour donner un petit peu d'éléments extérieurs qui n'apparaissent pas forcément dans la
bande dessinée. La clé des confins, ça nous a permis de donner d'autres informations, celles qu'on n'avait pas retenues, et puis une complémentarité aussi. C'est-à-dire, dans la clé des confins, par exemple, on apprend l'enfance de Sian, on apprend l'histoire de sa mère, dont on ne parle pas du tout par ailleurs, ou très peu. Ça permet quand même de savoir des choses qui ne sont pas indispensables. Pour une Ibolgum, c'est pas mal de s'y référer quand même. Il y a des petites choses comme ça. C'est une petite lecture complémentaire et qui apporte quelques bonus, si on peut dire. Et puis il y a ce lexique aussi, il y a quand même pas mal de choses.
Et donc tu as... Est-ce que par exemple, on a dit que c'est un métier quand même de sédentaire, mets en scène énormément de voyages dans tes histoires, beaucoup de documentation sur que ce soit la Nouvelle-Orléans et autres par exemple. Est-ce que tu t'es rendu dans ces endroits pour les autres séries, que ce soit les Compagnons du Crépuscule ou les Passagers du Vent? Est-ce que tu as pu visiter les lieux sur place par exemple, ou est-ce que c'est une nécessité que tu éprouves? Et pour le cycle de Sian, du coup, est-ce que en fait ton guide touristique c'était Claude en fait un petit peu?
Non, c'est tous les deux, mais il faut qu'on arrive à créer un monde dans lequel on croit. Parce que si nous, on n'y croit pas, ça ne marche pas. Ça ne marchera pour personne. Donc, il faut qu'on se piège soi-même. C'est une nécessité. C'est pour ça que quand je disais à Claude, voilà, un jour, on avait une discussion tous les deux et on n'était pas d'accord. Alors, on discutait depuis une heure, vraiment, et tout. Et... je dis à Claude, non, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Il me dit, mais si, c'est ça. Et je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que là-bas, c'est comme ça. Et à partir du moment où il m'a dit ça, je lui dis, bon, si là-bas, c'est vraiment comme ça pour lui, je ne vais pas lui casser ça. Et je me suis dit, après tout, je vais me manquer sur cette réalité-là et je vais la conserver comme hypothèse.
Alors, tu parles peut-être des petits points de divergence avec Claude. Je sais que, par exemple, la planète bleue, Tu me dis souvent qu'il y a un point de divergence sur la réalité de cette planète bleue. Qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est une interprétation à la pierre boule? Est-ce que vous avez revisité l'histoire de la planète bleue? Ou est-ce que ce n'est pas la planète bleue à laquelle on pense?
On n'a ni l'un ni l'autre des certitudes. Moi, je pense quand même que ce pourrait être la nôtre. Mais c'est une planète mythique, lointaine, dont plus personne ne se souvient que par des légendes, et puisqu'on a perdu toutes les archives, c'est expliqué dans la clé des confins. Claude pense qu'elle se situe vraisemblablement peut-être dans notre galaxie, mais c'est peu probable, vraisemblablement dans une autre et peut-être même dans un autre univers.
Il a un plus grand désir d'évasion.
Peut-être, si. Oui, puis surtout beaucoup plus. Claude est un sceptique, dans le sens ancien du terme. Il n'admet pas facilement les choses qu'on lui propose.
Mais si c'est bien de la Terre dont il s'agit, ça donne une dimension presque, une anticipation écologique en fait au texte, presque. Et à ce propos, qu'est-ce que tu peux en dire? Ta préoccupation, par exemple, vis-à-vis de l'eau, ta préoccupation, je dirais, ton regard sur l'actualité, ton regard sur, sur la marche du monde, entre guillemets, est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe au point de te dire, il faut que j'arrive à distiller des petites choses dans mon récit, je dirais, autre que le simple amusement, quoi, en fait?
Alors, ce qu'on arrive à mettre dans un récit, on ne le met pas... Le but n'est pas ni de porter des messages, ni de convaincre les gens. C'est simplement qu'on peut pas faire autrement. La science-fiction ou l'histoire, tout court, la démarche est la même. Que fait un historien à partir de données comme celles que Claude m'a portées ou que je peux inventer? Il essaie de recréer une époque qu'il n'a jamais connue réellement et de mettre en valeur un certain nombre d'hypothèses pour créer une cohérence. L'histoire, la vraie histoire, c'est de la fiction. C'est de la fiction qui permet un raisonnement philosophique. La science-fiction, c'est pareil. Enfin, nos mondes, on les crée pareillement. Mais nos personnages, ce sont des gens qui nous ressemblent étrangement. Ils ont à peu près les mêmes qualités, les mêmes défauts. Et donc, ce qui nous angoisse dans notre époque nous angoisse quand on se reporte dans l'histoire ancienne, mais nous angoisse aussi quand on se reporte dans des mondes que l'on ne connaît pas réellement.
Alors, tu as beaucoup travaillé donc sur des récits historiques. Tu fais du tir à l'arme ancienne, par exemple. Est-ce que par moment il y a eu des lieux que tu as explorés ou des lieux que tu as imaginés qui t'ont donné finalement envie de t'y installer? Une espèce de nostalgie d'un ailleurs ou d'un autre temps. Est-ce que c'est présent, ça?
Je me méfie quand même beaucoup. Moi, je suis très sédentaire. Hein. J'aime bien faire voyager mes personnages, mais je suis très sédentaire. Non, il n'y a pas de lieu que... En revanche, il y a une autre manière de voir ce qu'on connaît. C'est-à-dire que quand on est en recherche de la vie ailleurs, on commence à naviguer dans les échelles que l'on peut imposer à un décor, qu'on peut d'un seul coup regarder un paysage de prairie ou de forêt ou de sous-bois infiniment petit et à lui donner une autre dimension et à se demander s'il avait cette dimension qu'on imagine, comment il pourrait évoluer et à ce moment-là commencer à s'amuser, à recréer autre chose. Et puis aussi, des fois, il nous est arrivé d'inventer des formes ou des choses en fonction de pistes abandonnées par la nature, c'est-à-dire de tout ce qu'on peut découvrir dans la roche, etc., d'animaux qui ont peut-être vécu à un moment ou qui auraient pu vivre ou nous survivre, mais qui n'existent plus. Et puis, bon, de créer des personnages amusants, bon, comme le Wiccan, ou sympathiques comme le Trottil ou les Cajoles.
Ah oui, je vous invite à découvrir la danse des Trottils dans l'exposition, ça vaut le coup d'œil. Sur certaines planches, tu as presque un dessin naturaliste en termes de au niveau flore, au niveau faune et autres. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a des passages, par exemple, aussi amusants que ce que nous racontait, par exemple, le fils de Raymond Poivet pour le voyage des conquérants de l'Espérance, par exemple, où il s'amusait à arpenter son jardin à quatre pattes avec un antiscope pour pouvoir voir les fleurs par en dessous et donc les redessiner en très gros plan. Est-ce que ça donne lieu à ce type d'expérimentation?
Pas tout à fait du même ordre, mais moi, il m'est arrivé de regarder des choses à la loupe binoculaire pour voir ce que pouvait donner tel insecte ou telle plante vue en grand, etc.
Et alors, quel est ton personnage préféré?
C'est Sian.
C'est Sian?
Dans Sian, oui. Mais il y en a d'autres pour lesquels j'ai beaucoup de tendresse. Alors, il y en a un que j'aime bien, qui est le Wiccan, évidemment. Ça, c'est un personnage qui est un peu plus Claude. Claude avait vraiment beaucoup tenu à ce que cette créature capable de calculer n'importe quel voyage spatio-temporel en une fraction de seconde, mieux que n'importe quel ordinateur, le reste du temps se repose les neurones à dire à peu près n'importe quoi ou à répéter ce que les gens viennent de dire en le transformant de manière à en faire un discours abscon. Ça, c'est un personnage qui est assez amusant, mais il y en a d'autres, oui.
Et alors, est-ce que, parce que dans la première partie du cycle, effectivement, on découvre quand même une gabine. On a envie quand même de temps en temps de lui mettre quelques baffes. On est quand même d'accord.
Oui.
Et tu l'as fait quand même grandement évoluer, je dirais, dans le cycle. Et sans être, entre guillemets, moraliste et autre, le dernier tome ouvre une perspective à laquelle on ne s'attend pas forcément, en fait. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose auquel tu tiens. Cette fin, je dirais presque positive, sans en dévoiler quoi que ce soit.
Optimiste.
Optimiste en tous les cas. Et
quand j'ai commencé à penser à cette histoire, je voulais absolument, il y avait une chose à laquelle je tenais, c'était à l'évolution de Sian. J'avais envie d'avoir un personnage évolutif. Moi, je suis pas quelqu'un de compétitif. J'ai fait du sport, j'ai fait un certain nombre de choses. Je suis pas un gagnant. Remporter une victoire sur les autres, ça m'intéresse pas. Il y aura toujours un mec plus fort qui fera mieux que moi quelque chose. Mais remporter une victoire sur soi-même, ça, voilà. Et je pense que Sian, ce qui est intéressant, c'est que t'as un personnage qui n'arrête pas de s'améliorer.
D'accord. Donc effectivement, je vous invite à découvrir effectivement l'évolution de Sian. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces personnages auxquels tu as donné vie et que tu as offert au public? Est-ce que tu as eu des retours par exemple de lecteurs sur les personnages eux-mêmes, en fait, des lecteurs transis qui t'écrivaient des lettres amoureuses de Sian en te demandant de lui communiquer?
Pour moi, il y a mieux que ça. il y a mieux que ça. Il y a par exemple des petites filles qui s'appellent Sian.
Forcément. Magnifique. Si vous avez des questions, je vous invite à lever la main, comme ça on va quand même prendre le temps de vous répondre et François pourra développer en même temps quelques réponses. Alors je sais qu'il y a une personne qui se promène normalement avec un micro dans la salle. Alors peut-être qu'il faut se mettre debout pour l'attirer. Il y a une question au premier rang. Bon, le monsieur s'est habillé exprès en vert pour qu'on puisse le repérer, donc ça tombe bien.
Le vert, c'est la couleur de l'album d'avant aussi. Je suis désolé. Non, je voulais savoir, quand on a été baigné comme moi par toutes vos œuvres, on a commencé avec Les Passagers du Vent, bien sûr, juste vous redire le plaisir absolu quand l'album sort, et que même si on attend, et ben c'est bien, ça fait monter encore plus le plaisir, c'est sympa. Après, on se dit, voilà, vous avez exploré le Moyen-Âge, vous avez exploré toutes les Passagers du Vent, puis un saut temporel, la science-fiction. Alors on se demande, quelle va être la prochaine époque? Si vous allez relancer un nouveau cycle, ce serait vraiment gentil pour nous. Hein.
Alors, un nouveau cycle, certainement pas, parce que j'ai quand même 69 ans passés. Me lancer dans 10 albums au rythme où je les travaille, c'est pas la peine de tenter le diable. En revanche, je vais plutôt essayer de faire un peu comme j'ai fait pour la petite fille Bois Caïman, de faire soit un album épais, soit deux albums, éventuellement trois, mais qui sortent pratiquement en même temps, qui pour moi constituent une histoire, et puis d'avancer comme ça tant que je pourrais. J'ai déjà, bon, on ne va pas en parler, c'est trop tôt, parce que mais je travaille déjà sur quelque chose, voilà, mais ça va prendre du temps. Oui.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Une question qu'on vous a sans doute déjà posée, mais pourquoi des femmes comme héroïnes? Pourquoi toujours des héroïnes?
Alors, il y a plusieurs réponses. La première, c'est que quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, c'était tout à fait par hasard. J'étais au chômage, j'avais fait l'école des métiers d'art, j'avais un diplôme de maître verrier, je savais dessiner, et une ancienne amie de l'école des métiers d'art, l'actuel musée Picasso, à l'époque il était rue Olivier de Serres, m'a proposé un jour de remplacer un illustrateur qui ne pouvait pas travailler pour le week-end et de leur livrer un boulot pour le journal Lisette. Lisette, c'était un journal pour les petites filles de 12 ans maximum. Hein, et je leur ai livré cette illustration. Ils m'ont proposé de continuer, de faire un test BD. Je leur ai fait quelques planches. On a continué pendant quelques années. Ensuite, ça a été Fleurus, Pif Gadget, etc. Mais aussi bien Fleurus qu'à Bayard Presse, c'était des journaux destinés aux petites filles. Donc je me suis acclimaté à des personnages féminins et je trouvais ça assez confortable. Assez confortable pour pas mal de raisons. Bon, d'abord, en tant que dessinateur, pour le plaisir sensuel du dessin, mais aussi, je suis quelqu'un qui aime la différence. Donc, aller au-devant de l'autre, m'exprimer à travers l'autre, essayer de réunir l'un et l'autre, c'est un travail beaucoup plus amusant. Et puis on est quand même, plus de la moitié des êtres humains sont des femmes, et je vois pas pourquoi elles seraient pas dans les BD. J'étais quand même, j'ai commencé la bande dessinée à une époque où la plupart des personnages féminins, quand il y en avait, étaient des vampes ou des personnages de second rôle, et j'avais envie, puisque j'avais eu la chance de pouvoir commencer avec des héroïnes, de continuer. Voilà. Et puis, il y a aussi le côté compagnon de route. Quand on dessine quelqu'un toute la journée, on n'a pas envie de se regarder dans une glace. Bon, on se voit déjà assez comme ça.
Pour préciser, les vampes, ce soir, il y a Barbarella, je crois, qui passe en cinéma. Finalement, Sian est érotique quand même, a une grande charge érotique, mais effectivement, plus modéré. Est-ce que tu peux, je vais quand même lancer un petit peu quelques orientations. J'aimerais que tu nous parles un petit peu aussi de ta conscience politique. Après, on garde les questions, bien entendu. D'accord. Mais okay. Voilà, si tu peux nous faire un petit.
Ma conscience politique, là encore, c'est pas. Je n'ai pas de message.
Je veux simplement dire que. Disons, le public connaît tes engagements, les cailloux sur le chemin de ta carrière, je dirais, quelles sont les traces que cela a laissées, quel est le regard aujourd'hui que tu portes d'une part sur le métier, sur le monde de l'édition par exemple, et est-ce que ce regard te prend du temps? Je sais que tu es a priori engagé sur des combats récents là, concernant la défense des auteurs, l'injustice peut-être, des choses qui se présentent, qui se profilent. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui prend encore du temps ou est-ce que c'est quelque chose que tu regardes de loin?
Je pense, mais ça, c'est simplement une manière de voir les choses, qu'il faut essayer d'être cohérent entre les histoires qu'on raconte et la vie que l'on mène. C'est très difficile, enfin moi ça m'est très difficile de séparer complètement les deux. En plus, je suis un auteur qui a eu la chance de rencontrer un public. Il y a des auteurs très talentueux qui ne le rencontrent pas. Donc qui ait les moyens de me battre, quand on peut se battre, faut le faire, quoi. Se battre, ça ne veut pas dire tout casser. Simplement, ça veut dire savoir dire non, ça veut dire ne pas se laisser faire, ça veut dire penser un peu aux autres, puis penser aussi aux autres, à nos autres, à nos petits-enfants, etc. Donc, j'aime bien cette cohérence, ça me renvoie une image qui me plaît moi-même, là je me fais plaisir.
Je crois qu'il n'y a pas qu'à toi qu'elle plaît. On continue avec quelques questions par là-bas.
Bonjour. Bonjour. J'avais une question sur votre travail, enfin votre façon de travailler. Moi, quand j'ai lu les deux premiers tomes, je ne savais pas qu'il y avait une suite et ça ne me paraissait pas forcément aller de soi. C'est-à-dire que les albums sont un petit peu autosuffisants. C'est-à-dire qu'on pourrait s'arrêter là, si on est au début de la série, on n'est pas forcément sur notre fin. On est content de découvrir la suite, mais du coup, c'était comment vous avez envisagé la suite? Est-ce que c'était un pas après l'autre? Est-ce que vous aviez une vision à long terme? Et si tel était le cas, comment vous avez construit le scénario dans la durée? Est-ce que vous aviez toutes vos idées, juste des pistes, ou alors rien du tout, et que à chaque fois vous vous êtes dit, allez, on en fait un autre. Quelle suite on va donner, etc. Parce que vous laissez toujours des portes ouvertes, mais est-ce que vous savez où est-ce qu'elle vous mène?
Alors. Quand on a commencé le cycle de Sian, au départ, avec Claude, on était prudent parce que, on a chacun nos caractères. Il fallait que cette collaboration marche bien, qu'on arrive à trouver une manière de fonctionner atypique, puisque beaucoup de gens, plus de 20 ans après, il y a encore plein de gens qui pensent que Claude est le scénariste et que je suis le dessinateur, qu'on n'a jamais réussi à expliquer comment on travaillait. Donc, on s'était dit, on va partir sur deux albums, avec un album en plus qui est la clé des confins, et on verra ce qu'on a envie de faire après. Donc ces deux premiers albums devaient pouvoir se suffire en eux-mêmes, et d'ailleurs ils se suffisent en eux-mêmes. Quand on a décidé que l'expérience était amusante et qu'elle pouvait se prolonger, on s'est dit, bon, on va profiter de cette possibilité qui est offerte à Sian d'aller de planète en planète en raccompagnant les populations prisonnières sur Ilo, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un espèce de feuilleton où on va faire du tourisme à saute-mouton entre toutes les planètes de l'Empire, etc. Donc, on s'est fixé, enfin moi j'avais fixé un petit problème que je voulais absolument résoudre dans le spatio-temporel, si on peut dire, notre manière de voir le voyage spatio-temporel, ce qu'il pouvait amener ou ne pas amener, etc., et proposer plusieurs versions compatible de la progression des technologies, puisqu'on voit au début Sian, enfin on apprend petit à petit que l'Empire a découvert pendant la guerre des confins qui précède un peu l'existence de Sian, c'est ce fameux réseau qui venait du Grand Orbe qui se situe dans l'avenir de l'Empire et de Sian. Ce réseau, un peu comme un réseau de métro, avait fait quelques incursions dans son passé, ce qui avait permis à l'Empire d'essayer de se greffer dessus, ce qui n'avait pas plu au Grand Orbe, qui avait coupé la possibilité de revenir, ce qui fait qu'on a maintenant les soldats perdus qui réapparaissent partout comme de méchants troufions avec leur ne sachant jamais terminer leur guerre et qui apparaissent de porte en porte. Ensuite, il y a l'entretemps. Alors là, on passe à une autre période où les portes ne sont plus posées par des vaisseaux traditionnels de planète en planète qui permettent ensuite la téléportation. Mais c'est un vaisseau lui-même qui porte sa propre porte, qui va propulser là où il veut aller pour réapparaître dedans. Et puis ensuite, il y a le V, dernière étape connue jusqu'au dernier album, ce personnage qui porte sa porte directement dans l'oreille et qui peut se téléporter lui-même où il veut, comme le ferait l'entretemps, mais d'une manière beaucoup plus discrète. Et là, on voulait répondre à ça et en même temps mener cette quête de Sian face à elle-même, face à son passé, à tous les problèmes qu'elle a rencontré gamine, parce qu'on parlait de son côté insupportable, de son côté gosse de riche et un peu tête ou fesse à claque, comme on veut. Sian, elle a morflé aussi, gamine. Hein. Donc, ça, on l'explique un peu dans La Clé des confins. Et on voulait en faire... Enfin, moi, je voulais en faire, parce que les personnages, à part justement des personnages comme le Wiccan ou l'enquêteur, qui est un personnage de... le personnage de Sian, les personnages principaux, c'était plus mon boulot réellement, quoi. Mais Claude, ça n'empêchait pas justement Claude d'intervenir avec, par exemple, l'enquêteur qui doit son nom parce que on a toujours l'impression son cri d'oiseau est un peu comme les enquêteurs qui disent et alors, et l'enquêteur, l'oiseau, fait et alors. Bon, et c'est un peu pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Bon, voilà. Donc, il y avait quand même. Il était prévu de ne faire que 2-3 albums, pas plus, quoi, pas plus. Moi, en tout cas, j'avais pas envie que j'avais envie qu'à un moment ça se termine et de pouvoir un petit peu comme des enfants, ben on les emmène le plus loin qu'on peut, puis à un moment, ben démerdez-vous les gars, on vous fait une bise de temps en temps et puis c'est votre vie après tout.
D'autres enfants à venir alors. Donc une autre question.
Oui. Est-ce qu'on pourrait dévoiler ce soir un grand mystère ? Et est-ce que vous pourriez nous dire, du coup, comment se prononce le personnage du troisième tome ?
Ah, Aïeïa. Voilà. Voilà, c'est Aïeïa. Mais Sian l'a toujours appelé Aïa, elle n'a jamais réussi à le dire, ou elle avait la flemme de le dire aussi, parce que Sian était encore dans une phase un peu capricieuse.
Un peu rebelle.
Juste une question, alors, qui n'est pas uniquement liée à Sian, mais qui est liée aux passagers du vent. Est-ce que, par exemple, un auteur comme Garneret a eu une importance dans votre compréhension de ce que vous avez pu faire avec les passagers du vent ? Et si c'est le cas, est-ce que, bien que ça soit de la science-fiction, pour Sian, vous avez eu des auteurs qui vous ont aidé dans votre conception du personnage et de votre œuvre?
Alors, dans les Passagers du Vent, bien sûr, j'ai lu beaucoup de livres sur la guerre de sécession, sur Haïti, le rapport du député du Loiret sur Saint-Domingue, etc. Donc pas mal de choses pour me tenir dans le bain. De la même manière, et ça malheureusement j'ai pas pu le faire pour Sian, j'écoutais des musiques en rapport, de la musique créole haïtienne, de la musique cajun, des choses comme ça. Bon, ou quand je lisais des polars, ou parce que j'avais envie de me détendre, ben, je lisais un James Liebberg par exemple, plutôt que de lire un Maigret. Voilà, pour Sian, j'ai pris une démarche inverse. C'est-à-dire que je voulais surtout pas, parce que il y a quand même plein de gens dans la science-fiction qui ont des idées absolument merveilleuses, et je voulais pas être tenté de trouver des pistes, de récupérer des choses. Je me suis dit, bon, je ferai modestement ce que je peux. Claude va m'aider pour arriver à faire quelque chose d'amusant. Mais je voulais pas subir des influences, donc j'ai arrêté complètement de lire de la SF quand j'ai commencé à faire Sian.
Oui, pour la petite anecdote, je crois savoir que le seul roman dont tu as fait la couverture pendant toutes ces années, le seul roman de science-fiction, est Le Chant du Drill, donc d'Ayerdal, paru au Diable Vauvert.
Voilà, puisque Ayerdal m'a
gentiment d'autant plus flatté moi-même.
Voilà, il est là.
Donc j'espère que vous arriverez à vous croiser tous les deux.
Et il m'avait demandé de lui faire cette couverture, donc automatiquement j'ai lu le bouquin et quelques-uns de ses livres avant de faire la couverture, c'était la moindre des choses.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on parlait du côté, en attendant, non, allez-y, mais. En attendant la nouvelle question, on parlait du côté un petit peu sale gosse de Sienne, un petit peu son aspect rebelle. Par rapport à ton parcours, on pourrait presque dire que ça colle un petit peu à ta personnalité. Comment est-ce que tu te considères?
Il m'a traité de sale gosse, hein?
Pas tout à fait. Mais un peu irréductible quand même, j'ai l'impression. Donc
Non, pas irréductible, mais je pense qu'il faut savoir dire non. C'est essentiel, et surtout avec les amis, surtout avec les gens qu'on aime bien, faut rien leur laisser passer. Et faut rien se laisser passer à soi non plus. Il vaut mieux un petit désaccord, même une bonne engueulade à temps, que quelque chose qu'on va accumuler pendant des années, et quand ça va sortir, ça va exploser, et les positions sont irréconciliables. Donc je préfère, dans le domaine professionnel comme dans le domaine privé, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, je préfère tout de suite le dire. Les auteurs savent très bien comme il est difficile de négocier des contrats, par exemple. Un contrat, ça se négocie avant. Il ne faut pas attendre les premiers problèmes pour commencer à s'en apercevoir, parce que là, souvent, c'est déjà trop tard et on n'a plus le choix que le tribunal ou autre chose, ou rien, quoi, ou de céder. Donc, il vaut mieux s'engueuler avant, et puis une fois qu'on a établi un bon équilibre, on est tranquille pour quelques années, dans le meilleur des cas, bien entendu.
Donc, une question?
Bonjour. Je voulais savoir si, entre les quatre premiers tomes et les deux derniers, vous aviez eu une façon un petit peu différente de dessiner ou d'ancrer les traits, ou si au niveau impression, ça avait évolué, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas tout à fait le même ressenti au niveau des images, en fait.
Entre les quatre premiers et les deux derniers, alors il y a eu 6 ans d'interruption qui ont été consacrés à la petite fille Bois Caïman. Et entre-temps, il y a eu aussi des évolutions de la technique et des disparitions de certaines technologies. J'entends par là que, par exemple, j'ai très longtemps dessiné à la plume. Quand j'ai commencé à Yadaldal, j'ai commencé à dessiner à la plume. J'ai commencé à dessiner à la plume. Et puis les plumes avec lesquelles je dessinais ont disparu, parce que ça n'intéresse plus personne de fabriquer des plumes pour trois clampins. Et qu'il a fallu que je m'adapte à d'autres modes de dessin. Et ça m'a permis une évolution personnelle, de travailler en plus grand, et ensuite de faire des montages, et petit à petit ces montages je les ai faits sur ordinateur, un petit peu ce qu'on voit dans l'exposition où je fais des dessins de plus en plus grands. Mais alors ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que ça prend plus de temps. L'avantage, c'est que ça donne plus de souplesse au mouvement. On a des gestes plus proches du pictural que de la gravure, si on peut dire. Voilà. Sinon, le montage, évidemment, le scannage des dessins noirs et blancs et le montage à l'ordinateur donne beaucoup plus de souplesse, de possibilités de recadrage. Moi, ça m'est souvent arrivé de faire des planches avec des petits remords à la fin. Et puis, quand on a passé une semaine sur une planche, on n'a pas envie de tout refaire, donc on laisse tomber. Donc ça me donne plutôt plus de souplesse. Ce qui est le plus dur, c'est peut-être la couleur aussi, où certains papiers ont disparu ou n'ont plus la qualité qu'ils avaient. Certaines encres ne se fabriquent plus, parce que la Commission européenne est passée par là, que certains colorants sont interdits et que, par exemple, pour les peintres connaissent tous le rouge au mercure, on n'a plus le droit d'en fabriquer. Donc, il y a plein de choses comme ça qui nous obligent à nous adapter. Ben, faut s'adapter. Il faut s'adapter à tout, au vieillissement, à tout.
Encore une question ? Donc je sais que tu vas rien nous dire sur tes projets. Et est-ce que tu peux au moins nous donner, par exemple, un rythme de travail ? Est-ce que tu l'abordes totalement, sereinement, tranquillement ? Comment te sens-tu aujourd'hui, par exemple, le fait effectivement que le cycle de Sian soit terminé ? J'imagine qu'il y a eu une période de soulagement, une petite période de baby blues peut-être ?
Non, parce
Et
que...
après tu repars au... Au charbon.
Le cycle de Sian est terminé pour moi, mais le cycle de Sian complet commence pour le lecteur. Donc il y a quand même il y a quelque chose qui est sur les rails. Alors ça durera ce que ça durera, on verra. Ça durera ce que durera le livre. Qu'est-ce que durera le livre ? Et on peut ouvrir de vastes débats. Mais moi j'ai pas un vide. C'est comme un ami qu'on quitte. Parce qu'il part s'installer pendant quelques années au Brésil ou n'importe où, on sait qu'on ne va pas le revoir souvent, puis il revient 4 ans après, et puis on a l'impression de l'avoir quitté la veille.
On est content de le revoir, oui.
Et puis on est content de le revoir, et puis on va prendre un pot ensemble, et voilà, on a l'impression que c'est la vie qui continue. J'ai pas de rupture comme ça, je les sens pas. Et puis Sian, elle se retrouve dans d'autres personnages comme Isa, s'est un peu retrouvée parfois dans Sian, c'est pas les mêmes, hein. Mariotte non plus, mais c'est quand même des personnages qui se tiennent un peu la main.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui. S'il vous plaît, oui. Excusez-moi. Je voulais savoir si vous n'êtes pas trop harcelé par vos lecteurs quand une série se termine, surtout les passagers du vent. J'ai cru savoir que beaucoup de gens voulaient avoir une suite, mais vous n'étiez pas prêt à ce moment-là pour le faire. Comment ça s'est passé finalement dans votre tête quand est ressorti la vie de la petite fille du bois caïman ?
Alors, dans ma tête, c'est extrêmement simple. C'est mené par une seule chose, le désir. Quand j'avais fait les 5 premiers tomes des Passagers du Vent, j'avais vraiment envie de passer à autre chose. Peut-être parce que on avait aussi réussi à me... je pouvais plus les continuer comme j'avais envie de les faire, parce que l'album en 46 pages ne me convient pas. C'est pas mon format. Je suis pas fait pour la nouvelle. Et je suis pas fait pour le feuilleton non plus. Donc j'avais envie, et ça a été ma bagarre avec Casterman, avec Jean-Paul Mougin et Didier Plateau, d'arriver à obtenir un bouquin comme Le Dernier Chant des Malaterres, 126 planches, je crois, 146 pages. Donc je voulais prendre le temps de poser mes personnages, etc. Ensuite, j'ai commencé le cycle de Sian, pareil, pour changer, parce que c'est ce que personne ne me demandait. Souvent, tout le monde veut la suite, mais non, moi, je veux de nouvelles choses. Puis à un moment, j'ai eu envie de reprendre. Alors, j'ai eu envie de reprendre pour des raisons personnelles, D'abord, bon, j'ai fait un petit voyage en Louisiane qui m'a permis de découvrir une région dans laquelle je savais qu'Isa pouvait être allée, puisque j'avais toujours imaginé que de Saint-Domingue, l'actuel Haïti, elle avait pu faire, comme beaucoup de colons haïtiens, migrer à la Nouvelle-Orléans. C'est donc ce qu'elle a fait. Et je savais que là-bas, elle avait une chance de rencontrer O.L. pour peu qu'il ait rencontré Lafitte. C'est ce qu'elle a fait, mais pas dans les conditions que j'imaginais à l'époque. Et puis, bon, dans ma famille, j'ai aussi des enfants et des petits-enfants. Et avec ma femme, nous avons des petits-enfants qui sont très mélangés. Il y a des Eurasiens, il y a des Créoles, il y a tout ça. Pour moi, c'est une aventure absolument extraordinaire. Et j'avais envie de reparler un petit peu de tout ça. Voilà ce qui m'a remené à la petite fille Bois-Caïman, et puis parler de la dernière grande abolition qui était la guerre de sécession, et voilà, d'aborder ce thème-là. Mais il y a encore plein d'autres thèmes à aborder, et j'aurai jamais le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Oui ?
Alors, vous êtes un extraordinaire dessinateur, mais vous êtes un très bon maquettiste aussi.
Ben, j'aime bien faire des maquettes. D'abord, ça, c'est le côté gamin. J'ai toujours aimé faire ça. Et puis, ça concrétise un certain nombre de choses. On en arrive au point où on se dit finalement, à partir du moment où c'est en maquette, où ça existe en maquette, ça existe réellement, puisque la maquette n'a pu être faite qu'à partir de quelque chose qui existe. Si on l'imagine d'une manière aussi concrète, c'est que quelque part ça existe. Donc ensuite, ça permet il est certain que la tour Olcimar, je l'aurais certainement moins dessinée ou sous moins d'angle si je n'avais pas eu la maquette. Le raffio d'Aïa, c'est pareil. Ce raffio, je l'ai représenté, c'est pratiquement le lieu unique de tout cet album. Je l'aurais beaucoup moins représenté s'il n'y avait pas eu cette maquette que je me suis bien amusé à faire. Et c'était pareil pour le fort de Judas, le château de Montroy, enfin, il y a plein de choses comme ça, j'aime bien. Et le château de Montroy, bon, je vais faire une petite parenthèse, il est inspiré du château de Tournoel, que j'ai fait la maquette avec des plans du château et quelques photos. J'ai changé simplement la tour que j'ai basée sur le château de Maurice, enfin sur le donjon de Mauric qui se trouve en Vendée, et avec ma femme nous sommes allés bien des années après à Tournoel et découvrir pour la première fois ce château, et je lui ai fait visiter ce château comme un guide, c'est-à-dire que je connaissais tous les escaliers et tout, et chose très amusante, alors que quand même l'histoire des compagnons du crépuscule est basée sur trois sirènes. On redescend dans la cour, il y avait une pierre qui était posée contre le mur, en attente sans doute d'être emballée ailleurs, et j'ai pas pu résister au désir de la retourner, elle représentait un chapiteau de sirène. Voilà.
Alors, ce qui est rare et précieux, comme dit l'adage populaire, on va bientôt finir cette heure de rencontre. J'espère que tu continueras longtemps à t'amuser. Et j'espère que nous, on aura le plaisir de te retrouver comme un vieil ami pour continuer. Pour ma part, j'aurais bien continué toute l'après-midi à discuter avec toi et à découvrir un petit peu plus ton humanité. Je voulais te remercier personnellement d'être venu. Tu n'as pas été invité à Nantes pour les passagers du vent, mais tu es accueilli pour la source et la sonde, et c'est déjà pas mal. Et je te remercie pour tout ce travail et pour nous faire rêver et pour ta personnalité. Merci, messieurs, dames. François Bourgeon.
Merci de votre patience.
Juste une précision par rapport à la fin de la table ronde avec François Bourgeon. Ce qui est rare et précieux, je le répète, et donc François Bourgeon ne fait pas de dédicace. Je vous remercie de le respecter.
Je, bon, Une fois de plus, je vais m'en expliquer parce que j'en ai jamais fait. Enfin, j'en ai jamais fait depuis des années. Pour une raison très simple, il m'est arrivé un jour, alors que j'avais sorti comme unique album Brunel et Collin, l'éditeur de l'époque était Jacques Lénat son éditeur, entre autres, était Henri Filippini, et il m'avait envoyé dédicacer à Vélizy dans les caddies un week-end, et j'avais des planches à terminer pour la revue Circus, et je suis arrivé le lundi, je devais faire 4 planches, j'avais eu le temps d'en faire que 3, je revenais en plus avec un torticolis parce que dans l'espace commercial et tout, et Henri Filippini m'avait dû à juste titre: depuis le temps que tu travailles dans la presse, tu devrais savoir qu'un journal ne paraît pas avec des pages blanches. Alors je lui ai dit: mais Henri, tu as tout à fait raison, un journal ne paraît pas avec les pages blanches, ça ne se reproduira plus, mon métier c'est de faire de la bande dessinée, j'en ferai et je la ferai à l'heure. Le tien c'est de les vendre, alors démerde-toi pour les vendre tout seul. Et depuis, j'ai refusé de faire des dédicaces, et normalement effectivement je n'en fais pour personne, parce qu'à partir du moment où on a refusé un certain nombre de gens, on ne peut pas accepter pour d'autres, sinon ça devient injurieux pour ceux à qui on a refusé. Voilà, mais je vous remercie quand même.